Bonjour à tous. Merci Jean-Roch pour cette introduction. Et je tiens également à remercier le comité d'organisation de cette journée et son chef d'orchestre, Vincent Negri, pour me permettre de participer. Donc, par mon intervention, je vais tenter d'illustrer les limites de la notion de commun en droit européen à travers une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le site archéologique d'Azankev. Je vais articuler mon propos autour de trois points. Premièrement, la notion de patrimoine culturel commun européen dans les instruments juridiques du Conseil de l'Europe. Ensuite, je vais présenter le cas d'étude qui est l'objet de mon propos aujourd'hui, le site d'Azankev. Et enfin, les limites du droit individuel à la protection du patrimoine culturel et historique. Alors, l'idée qu'il existe des biens dont la conservation et la protection seraient le fruit d'un intérêt commun est présente à l'échelle européenne. Le patrimoine culturel n'est pas étranger à ces réflexions, puisque le Conseil de l'Europe a adopté nombre d'instruments concernant la culture qui rappellent justement que le patrimoine culturel est commun sur le continent européen. Donc, on parle dans la Convention culturelle européenne de 1954 de patrimoine culturel commun de l'Europe. Ensuite, plus tard, on parle de bien commun dans la Charte européenne de patrimoine architectural. La Convention de Grenade regroupe les deux notions, puisqu'elle parle de patrimoine culturel de l'Europe, et dans la même phrase, elle dit que notre passé est un bien commun à tous les Européens. Et la Convention de Malte, en 1992, adopte un terme un petit peu différent, puisqu'elle dit que le patrimoine archéologique est source de la mémoire collective européenne. Donc, on voit que le patrimoine culturel commun européen est une notion qui existe bel et bien dans les textes. Maintenant, on peut se demander si c'est une notion qui demeure incantatoire ou si elle est reconnue devant les juridictions. Donc, cette question s'insère dans une réflexion d'ensemble sur l'importance des ressources en matière de réalisation des droits de l'homme. Donc, la proclamation d'un patrimoine culturel commun peut-il être rattaché à un droit d'accès à ce patrimoine qui serait inclus dans la catégorie plus large des droits culturels? Et donc, pour illustrer cette question, je vais présenter le cas du site d'Azankev. Donc, c'est la décision du 21 février 2019 rendue par la CEDH, Aounbay et consorts contre Turquie. Donc, l'affaire concernait la construction d'un barrage sur le fleuve Tigre. Donc, je vous montre le cas du barrage, et qui menaçait le site plurimillénaire d'Azankev, lequel était notamment très précieux pour les traces de nombreuses civilisations qui s'y étaient succédées, donc, notamment les Sumériens, les Babyloniens, les Byzantins ou encore les Kurdes. Et les principaux monuments sont les piliers ici que vous voyez, avec un curseur, voilà. Les piliers en pierre de l'ancien pont sur la route de la soie, les mosquées qui ont été bâties à l'époque médiévale et dont certaines conservent encore leur minaret et leur mihrab, la citadelle ici, qui date du XIIe siècle, des mausolées et des grottes troglodytes. Et en plus d'Azankev, le barrage a également englouti près de 200 villages aux alentours, conduisant à l'expropriation de dizaines de milliers de personnes. Alors, les étapes de la construction du projet remontent assez loin dans le temps, parce que c'est un projet qui remonte à 1954. C'est là qu'on a les premières études concernant le développement de cette région, donc l'Anatolie du Sud-Est. Et le projet commence à se concrétiser au début des années 80. Donc, les premières fouilles programmées d'urgence sont entamées. Et en 1999, une demande préalable en annulation de la construction du barrage est déposée auprès du Premier ministre et elle se voit opposer un refus tacite. Donc, suite à cela, le projet a réellement commencé en 2006. Donc, on a une expropriation des parcelles de terrain et le chantier commence à cette date-là. Alors, avant de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, les requérants devaient avoir d'abord épuisé tous les recours internes. Donc, entre 2006 et 2016, enfin, et 2013 plutôt, on a eu une série de décisions de justice par les cours nationales, donc les tribunaux administratifs, puis le Conseil d'État, qui ont tous rejeté la demande des requérants. Et donc, une requête a été déposée auprès de la CEDH. Donc, la CEDH rend une première décision partielle en 2016. Elle ne tranche pas encore. À ce moment-là, la construction du barrage est déjà achevée à 90%. Et certains monuments sont déjà en cours de déplacement. Et en 2019, la requête est déclarée définitivement irrecevable par la CEDH. Au motif que la violation alléguée ne se rattachait à aucun des droits énoncés par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on retrouve parmi les requérants des professeurs d'université, des architectes et des archéologues qui étaient impliqués dans les fouilles et la restauration du site. Et donc leur argument comporte deux volets. Premièrement, ils font valoir la non-conformité du plan de déplacement des monuments, puisque la Turquie a adopté des normes, elle a signé la convention pour ratifier la convention pour la protection du patrimoine archéologique de Malte en 1992 et qui établit des principes bases auxquels en principe doivent répondre les politiques nationales de protection des biens archéologiques et qui souligne l'importance de la conservation in situ. Or là, le gouvernement avait approuvé un plan de déplacement qui consistait à sélectionner sept monuments les plus emblématiques du site, à les déplacer et à les transporter 3 km de là dans un parc culturel qui devait être voué à être un lieu d'attraction touristique. Les bâtiments, donc les requérants estimaient que c'était une chose inenvisageable et pendant la procédure devant les juridictions internes, des expertises avaient été menées pour savoir si les œuvres seraient endommagées par ce déplacement, pour savoir celles qui n'étaient pas susceptibles d'être déplacées, si le plan de déplacement était ou non conforme à la Convention de Malte et si les... Quelles seraient les œuvres, enfin les éléments du site qui ne seraient non déplacés et donc sacrifiés et voués à l'inondation. Selon les experts désignés par les tribunaux, le plan de déplacement était envisageable. Les requérants ont contesté ce rapport en soulignant qu'une telle manipulation n'était pas possible pour ces monuments au-delà de ça, ils perdraient de leur valeur esthétique et ils perdraient de leur intégrité en étant déplacés dans un lieu dont la topographie était complètement différente et dont on ne comprendrait pas vraiment les interactions. En outre, le plan de déplacement ne concernait donc qu'une partie du site et ne concernait pas des éléments qui n'étaient pas déplaçables comme les grottes troglodytes ou un tumulus. Et il y aurait tout des petites mosquées et des habitations vernaculaires qui faisaient le site. Donc, les autorités turques ont rejeté toute critique en arguant que les principaux monuments avaient été déplacés dans un parc culturel. Donc, là, vous avez des images du coup du déplacement qui a été effectué entre 2016 et 2019. Donc la ville historique et les monuments non déplacés étaient voués à l'inondation, donc ce qui s'est produit au printemps 2020. L'autre volet de l'argument des requérants était que cela constituait une atteinte au droit à l'instruction et au droit à l'accès au patrimoine culturel. Donc, les requérants avançaient que l'accès au patrimoine culturel était un élément inhérent au droit à l'instruction, que chaque individu avait le droit de connaître le patrimoine culturel et que la destruction du site d'Azankev entraînait une perte d'informations et de données scientifiques irremplaçables. Une perte d'autant plus importante que la vallée du Tigre et de l'Euphrate et de leurs affluents n'a été que peu explorée. Et ils invoquaient à l'appui de leur démonstration l'article 8 de la Convention des droits de l'homme et européenne des droits de l'homme et l'article 2 du protocole numéro 1. Donc l'article 8 qui proclame que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Et l'article 2 du protocole numéro 1 à la Convention européenne des droits de l'homme qui proclame que nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. En 2016, donc pendant la première décision partielle de la Cour, la Cour n'écarte pas immédiatement la requête portée contre la Turquie. Elle décide quand même de communiquer la requête au gouvernement turc, mais elle requalifie les griefs, c'est-à-dire qu'elle conserve la référence au respect de la vie privée, donc à l'article 8. En revanche, elle écarte l'idée du droit à l'instruction et elle le remplace par le droit de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Car en fait, le droit à l'instruction est extrêmement limité. Il concerne principalement l'égal accès aux établissements scolaires et universitaires. Et les requérants proposaient une lecture très extensive de ce droit. Cependant, la Cour n'a pas voulu écarter cet argument de la perte de données scientifiques liées à la perte du patrimoine. Et donc, l'a requalifié et intégré à l'article 10. Et donc, les questions qui étaient transmises au gouvernement turc, c'était est-ce que le droit au respect de la vie privée et ou à la liberté de recevoir, de communiquer des informations ou des idées peuvent être interprétés de manière à couvrir un droit individuel à la protection du patrimoine culturel et historique? Et dans l'affirmative, peut-on considérer que les requérants pouvaient se prévaloir d'un intérêt lésé? Alors, dans sa seconde décision, en 2019, la Cour porte un coup d'arrêt à ces réflexions. Si elle reconnaît d'emblée que la Convention n'est pas le seul cadre de référence et qu'elle peut interpréter ses dispositions à la lumière d'autres règles de droit international, donc elle peut, en fait, la Convention européenne des droits de l'homme ne contient pas de référence au droit à la culture, ni même de droit de prendre part à la vie culturelle. Mais la jurisprudence de la CEDH est riche d'exemples où les libertés qui ont été proclamées dans la Convention ont été interprétées de manière très extensive pour pouvoir intégrer des questions touchant à la culture et aux droits culturels. Cependant, elle énonce que cette reconnaissance se limite aux minorités et aux peuples autochtones. Et c'est particulièrement marqué dans le cadre du droit à la culture qui est garanti à travers l'article 8 de la Convention. Et donc elle cite l'arrêt de Chapman pour justifier le fait de limiter le droit de la culture, le droit à la culture aux minorités. Alors l'arrêt de Chapman, il concernait une famille qui vivait donc en caravane puisqu'il provenait de la communauté tzigane. Et donc la Cour a reconnu qu'on ne pouvait ces requérants ne pouvaient subir de mesures portant sur le stationnement de leur caravane puisque la vie en caravane faisait partie de leur culture et donc c'était protégé. Enfin la Cour protégeait la façon de conserver son identité de tzigane à travers l'article 8 qui énonce du coup le droit à vivre une vie privée, le respect à la vie privée et le respect à la vie familiale. Alors, la Cour, dans la décision Aoun Bay, ne définit pas ce qu'elle entend par minorité, ce qui aurait pu, en creux, permettre d'imaginer des cas spécifiques où elle aurait pu éventuellement confirmer l'existence d'un droit au patrimoine culturel. Alors un élément de piste, c'est un autre arrêt de 2009 où on a une définition par la Cour de la notion d'origine ethnique, donc qui ne se superpose pas totalement à celle de minorité, mais qui peut donner déjà des éléments de réponse. Et donc la CEDH estime que l'origine ethnique se définit par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d'origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie. Donc on voit que à travers l'arrêt Aoun Bay, la décision Aoun Bay, pardon, la CEDH a interprété strictement les limites qui étaient accordées aux droits culturels pour interpréter le droit d'accès au patrimoine culturel. Pourtant, à plusieurs reprises, la Cour a consacré le concept de patrimoine commun et le droit d'accès à ce patrimoine commun. Donc, par exemple, l'arrêt Agdas contre Turquie en 2010, la Cour avait condamné la Turquie pour avoir procédé à une saisie des exemplaires traduits en turc du roman Les 11 000 verges de Guillaume Apollinaire et pour avoir condamné pénalement l'éditeur du livre. Et la Cour a reconnu l'existence d'un patrimoine littéraire commun européen, donc un socle qui était défini par des critères objectifs, donc par les critères de notoriété de l'auteur, du prestige de l'édition dans laquelle il était édité, et son rayonnement international. Et elle a estimé que aucun pays ne pouvait contraindre, que le public ne pouvait pas être privé de l'accès aux œuvres qui appartenaient à ce patrimoine qu'elle définissait ex nihilo. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce que la Cour s'est empêchée d'étirer cette notion de patrimoine commun européen à, par exemple, aux sites archéologiques. Et un élément de réponse pourrait résider dans le fait qu'il y avait peut-être un trop grand pas à franchir entre la reconnaissance d'un droit d'accès à des livres, qui sont des biens meubles, qui sont reproductibles et qui, sont, qui circulent aisément, et la reconnaissance d'un droit d'accès à une propriété foncière, de surcroît propriété publique, ce qui aurait pu constituer une trop grande immixtion dans l'exercice de souveraineté de l'État. Et donc cette reconnaissance n'entraînait pas le même degré d'exigence. Et par ailleurs, un autre arrêt dans lequel on retrouve cette notion de patrimoine commun, cette fois-ci universel, c'est dans l'arrêt Beyeler contre Italie, où la Cour faisait référence au concept de culture universelle et de patrimoine culturel de toutes les nations, et les avait associés au droit du public d'y avoir accès. Et l'affaire concernait l'exercice du droit de préemption par l'État italien sur un Van Gogh vendu aux enchères, en vente publique. Et la Cour avait reconnu comme légitime la préemption de cette œuvre par l'État italien, qui était une mesure reconnue comme la solution la plus apte à garantir une large accessibilité de l'œuvre au bénéfice du public. Donc on voit que la notion de patrimoine universel, dans ce cas, se retourne en fait contre les requérants qui invoquaient une violation de leur droit de propriété au profit de l'État, qui est légitimé, lui, par un intérêt universel. Mais il n'existe pas d'action inverse. Dans la décision Aoun Bai, la notion de patrimoine universel ne pouvait être opposée à l'État. Donc on peut se demander si ce concept n'est pas asymétrique. Et donc en conclusion, je dirais que cette décision nous met en face à une double fragmentation. D'une part, le droit d'accès à la culture, et donc par ricochet, celui d'accès au patrimoine, qui est limité aux seules minorités et aux peuples autochtones. Et d'autre part, de la notion de patrimoine culturel commun européen, qui est restreint seulement à certains secteurs culturels, donc dans l'exemple de l'arrêt Agdas, à la littérature. Et donc cette décision démontre... est aussi prolongée par d'autres réflexions, notamment la convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société en 2005, reconnaît explicitement que le droit au patrimoine culturel est un élément du droit de participer à la vie culturelle, tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Turquie ne l'avait pas ratifié à l'époque des faits, mais on peut se demander si cela aurait véritablement pu changer l'issue de la décision, les droits culturels restent tout de même assez limités aux minorités. Donc on peut se demander si par capillarité, la convention de Faro aurait pu faire basculer la décision à Aoun Bai. Je vous remercie.